enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Si je vous disais ce soir, MLK, qu'est-ce que ça vous dirait? Allez, réfléchissez un peu là. MLK. Non, ce n'est pas le mouvement de libération des Kanaks. Non, c'est pas ça. Ou des canailles. Ah, non. Allez, MLK. Pendant que j'ouvre ma Bible, vous pouvez chercher. Faites un petit effort de mémoire. Si je vous disais, I have a dream. Ça y est, vous avez trouvé. Vous êtes des bons. Un peu d'histoire quand même. I have a dream. Et bien ce monsieur qui a dit ça, le pasteur Martin Luther King, MLK, bien nous fêtons ces jours-ci son anniversaire, son 40e anniversaire de sa mort. Il a été assassiné parce qu'il avait osé se lever pour la cause de la justice, au nom de l'évangile, pour la cause de la justice des gens de couleur. Alors, c'est beau, n'est-ce pas, mais ce qui est interrogateur pour nous tous ici, c'est de se dire, les États-Unis sont sans doute un des pays, sinon le pays, en tout cas à l'époque, qui était le plus christianisé au monde. Le pays où il y avait le plus de croyants évangéliques. Le pays où la parole de Dieu était prêchée le plus souvent. Et pourtant, dans ce pays-là, il y avait encore, en 1950, 60, 65, 70, il y avait encore énormément de haine raciale. On considérait les gens de couleur comme des gens de seconde zone. Et il s'est battu pour. À cause de l'évangile. Si je vous disais ce soir, par exemple, l'esclavage. Qui a introduit l'esclavage dans les temps anciens, après le Moyen-Âge? Eh bien, une nation, encore une fois, elle, chrétienne, qui plus tard va l'abolir, certes, mais quand même, l'Angleterre a largement contribué, avec la France, le Portugal et l'Espagne, au commerce triangulaire entre l'Afrique noire, occidentale, les Caraïbes, le Brésil, les plantations en Amérique du Sud, dans le sud de l'Amérique du Nord, et puis la France et l'Europe. Et pourtant, c'était des pays dits chrétiens. Saviez-vous, par exemple, que dans les pays africains, et je dis ça avec beaucoup de respect des frères africains parmi nous ce soir, il y a des pays qui sont christianisés bien plus qu'en France, et pourtant le taux de sida est encore énormément élevé. Beaucoup de gens meurent du sida. Et parmi ces beaucoup de gens, il y a encore beaucoup de chrétiens. Et pas forcément des chrétiens qui sont devenus chrétiens en ayant le sida, mais des chrétiens qui sont devenus sidéens au cours de leur vie chrétienne. Et je ne dis pas ça pour dire du mal des frères, ou pour les condamner, mais je dis ça pour relever un fait ce soir. Voyez-vous, je crois honnêtement que lorsque Dieu nous a sauvés, il nous a sauvés pour nous donner une vie en abondance. Que le salut, la vie qui est rentrée en nous, n'est qu'un point de départ qui doit nous mener par différentes étapes dans un pays où coule le lait et le miel. Et ce pays où coule le lait et le miel, ce n'est pas un pays hypothétique, dans un avenir lointain, dans l'au-delà, mais c'est le pays d'ici, c'est la vie chrétienne normale, faite à la fois de lutte et de combat, mais aussi de belles terres riches et fertiles. De vie où il y a une vie en sécurité parce que Dieu est avec nous. Et même si des coups durs devaient arriver, ben Dieu étant là, nous savons que Dieu pourvoit tous nos besoins. Amen. Et pourtant on se rend compte que parmi le peuple de Dieu, et je me rends compte en faisant des visites droite à gauche, que si certains ont saisi la chose, d'autres ont l'impression que malgré cette nouvelle naissance, malgré la vie de l'Esprit de Dieu en eux, en elles, eh bien, c'est comme si certains étaient toujours au bord de Canaan. Ils s'en approchent, ils pénètrent des fois quelques hectomètres ou kilomètres, et puis tout à coup, ça s'arrête. Et finalement, cette vie chrétienne n'arrive pas à son épanouissement. Et pourtant, la Bible veut nous enseigner là-dessus, et nous donner quelques clés qui nous permettent de faire mûrir cette vie de l'Esprit en nous, afin que vraiment nous devenions des hommes et des femmes qui bénéficions pleinement de ce que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Amen. Je voudrais ce soir voir avec vous, eh bien, à partir de ce soir, une série de messages sur l'art de bien vivre. L'art de bien vivre. Des fois, je suis frappé, il y a des non-chrétiens qui vivent parfois mieux que des chrétiens. Je n'ai pas dit que tous les chrétiens vivent moins bien que les non-chrétiens. J'ai pas dit ça. Dans le peuple de Dieu, il y a des chrétiens qui vivent très bien la vie chrétienne. Et gloire à Dieu et merci pour leur exemple. Amen. Mais je voudrais aider ce soir celles et ceux et donner à d'autres des clés pour qu'ils puissent les communiquer à d'autres pour leur dire, hey, si tu fais ça, tu verras ta vie, elle va booster, elle va avancer, elle va progresser. Tu vas entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Je voudrais lire avec vous un passage dans Luc 2, verset 52. Luc 2, verset 52. Un seul verset. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Je répète ça. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Remarquez voir que le développement de Jésus n'était pas que dans un domaine de la vie. Il se développait en sagesse, en stature et en grâce, et ça devant Dieu et devant les hommes. Autrement dit, il se développait intellectuellement, il se développait physiquement, il se développait spirituellement devant Dieu, en grâce devant Dieu, et il se développait émotionnellement, socialement, il avait une identité devant les hommes. Et je pense que des fois nous avons réduit la vie chrétienne à un seul domaine, le domaine de l'esprit. Alors que la vie chrétienne traverse tout l'être, âme, corps et esprit. Je suis chrétien pas seulement quand je prie et quand je vais à l'église. Je le suis aussi dans mes activités les plus banales de la vie quotidienne. Quand je mange, quand je roule en voiture, quand je parle à quelqu'un, je suis là aussi chrétien et capable du meilleur et du pire. Quand je mange de trop, je fais un excès de table et je pêche. Allô ? Alors ça pour les Alsaciens le soir à 21h, ça c'est difficile à avaler, hein, j'avoue. Je voudrais simplement, ce soir, eh bien, vous dire, Dieu nous a donné un manuel dans la Bible. Un manuel qui s'appelle le livre des Proverbes. Et qui est un condensé de sagesse, d'expérience, d'hommes et de femmes adultes, matures, qui ont marché et avec Dieu, et qui ont exercé leur vie croyante sur la terre que nous partageons avec eux et avec elles. Et qui nous ont livré là un condensé qui nous permet de mieux vivre aujourd'hui. Et bien souvent, nous avons connu une espèce de développement parfois qui était unilatéral. On avait connu la vie nouvelle avec Jésus. On se sent mieux parce que Jésus est rentré en nous. On a été pardonné de nos péchés. La vie est rentrée en nous. Gloire à Dieu, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Merci Seigneur. Désormais, le cœur est dégagé. L'avenir est assuré, l'éternité est devant nous. Un jour, nous verrons face à face celui qui a tant souffert pour nous. Amen. Mais ce salut a besoin d'être travaillé dans l'ensemble des domaines de notre vie. Et un des domaines les plus délicats, c'est le domaine de la façon de penser. Nous ne sommes pas toujours conscients combien, malgré tout ce qu'on peut décrier sur nos pays occidentaux, néanmoins, les racines judéo-chrétiennes ont laissé des traces profondes, même dans le système éducatif. On n'aime pas le mensonge. On le condamne publiquement, n'est-ce pas? L'hypocrisie des hommes politiques, par exemple. On le condamne. Mais c'est une racine judéo-chrétienne, tout cela. Et puis, des enfants qui obéissent aux parents, c'est encore une fois un élément biblique qui a migré. Mais ce qui est vrai et naturel pour nous ici, ne l'est pas autant ailleurs dans le monde. Parce que, eh bien, tranquillement, les cultures ont adopté d'autres formes de pensée et de réaction. Autrement dit, la nouvelle naissance, elle règle l'essentiel, mais après, il y a un travail de fond qui doit être fait afin que la vie chrétienne atteigne sa plénitude. J'ai connu une famille, et, je ne vais pas la citer, mais elle était venue complètement dans la drogue. Mari et femme droguées. Et les enfants pâtissaient là en dessous. Je les ai visités dans la région ici, et je me rappelle, leur petite fermette ressemblait à un tas de ruines. Mais je voyais cette femme, elle avait reçu le pardon de Dieu. Elle avait reçu la vie nouvelle de Jésus. Elle avait arrêté la drogue. Elle était là avec ses enfants et elle voulait les élever. Et elle pleurait. Elle disait, priez pour mon mari. Et on a prié pour son mari. Et lui aussi s'est converti. Il a connu des hauts, il a connu des bas, il a connu des hauts, il a connu des bas. Et puis il est devenu stable. Et cet homme est devenu vraiment quelqu'un de solide. Et quand je vois aujourd'hui leurs enfants s'engager avec Dieu, mais je dis, mais fantastique! Il n'y a pas seulement eu une vie nouvelle, il y a aussi une transformation de l'intelligence, de la façon de penser. Et dans Romains 12, verset 2, il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. Bien-aimés, vous avez beau être né de nouveau, si votre cerveau, si la façon de penser ne change pas, vous resterez dans des vieux système de pensée et vous risquez de ne jamais goûter ce à quoi Dieu vous a appelé. Parfois nous avons des vies chrétiennes qui se développent de manière déséquilibrée. Et l'équilibre se trouve dans ce que Jésus a fait. Il se développait en stature, physiquement, il se développait en sagesse, en intelligence, il se développait aussi en grâce devant Dieu et devant les hommes. Je voudrais pendant quelques messages prendre le livre des Proverbes. Et vous montrer quelques perles qui nous sont laissées et qui vont nous aider à vraiment construire des vies chrétiennes solides. Des vies qui sont savoureuses, des vies qui sont belles. Par exemple, il est marqué, quelqu'un mettra-t-il des braises dans sa poche sans que ce vêtement ne prenne le feu? Impossible, n'est-ce pas? Quelqu'un irait-il marcher sur les braises sans brûler les pieds? Impossible. Alors, dit le rédacteur des Proverbes, penses-tu honnêtement que tu peux aller voir la femme de ton prochain sans en subir les conséquences? Jésus a dit des proverbes tout simples. Par exemple, il disait, celui-ci, intéressant. Si quelqu'un veut construire une tour, il vaut mieux d'abord qu'il s'assied, qu'il calcule la dépense, et s'il a de quoi l'engager, qu'il l'engage. Parce que s'il ne le fait pas, et qu'en cours de route, il construit le projet, et en cours de route, il faut qu'il l'arrête, il aura honte. Il sera honteux devant tout le monde. Bien aimé, ça a l'air très simple et très évident, mais combien de gens, même des bons croyants, parfois engagent des dépenses folles par manque de réflexion. Ce n'est pas la faute à l'Église, ce n'est pas la faute à l'Évangile, c'est la faute au manque de sagesse et de bon sens et d'expérience. C'est pourquoi il est bon de fréquenter des hommes et des femmes de sagesse. Il est bon de fréquenter les sages parce qu'en les fréquentant et en les écoutant et en faisant ce qu'eux ont fait, vous allez réussir comme eux. Amen. Alors, allons un instant baigner nos pensées dans ce livre de sagesse. Sagesse très terre à terre. Et voyez-vous, la sagesse-là, elle s'apprend. Elle ne nous tombe pas dessus magiquement. Il va falloir prendre du temps pour plonger ses regards dedans. Le premier conseil que donne le livre de sagesse des Proverbes se trouve dans Proverbes chapitre 4, verset 7. Proverbes 4, verset 7. Proverbes 4, verset 7. Il est dit là. Le commencement de la sagesse, c'est de tout faire pour devenir sage. Verset second dit, voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la, et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Autrement dit, le commencement de la sagesse, c'est de tout faire pour devenir sage. Je n'ai pas dit pour devenir gentil. N'est-ce pas? Il y a le mot sage et gentil. Ce n'est pas être sage, gentil. C'est être sage, c'est-à-dire perspicace, prudent, avisé, expérimenté. C'est devenir quelqu'un qui maîtrise la vie et l'art de bien vivre. Que faut-il faire? Eh bien, applique-toi. Applique-toi. Applique-toi et tu posséderas, acquiers la sagesse. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour l'avoir. Bien-aimé, cette sagesse-là, elle est à notre portée de main, encore faut-il aller la chercher. J'avais un jour un ami qui avait perdu son porte-monnaie dans une salle de cours. Et puis tout à coup, il revient. Et il fouille partout, mais alors désespérément, il fouillait tout, il soulevait tout, il cherchait où était ce porte-monnaie. Et quand il l'avait trouvé, il allait beaucoup mieux. Bien-aimé, la sagesse, elle se trouve ainsi, quand on la cherche avec assiduité, quand on s'applique à la chercher. Elle ne nous tombe pas dessus, elle doit être recherchée. Pour mener une vie qui fonctionne bien, non, Dieu, le rendre de Dieu n'est pas suffisant, il nous faut en plus chercher à comprendre, à voir comment la vie fonctionne. Papa Jean n'est pas seulement quelqu'un qui a été sauvé par le Seigneur, ce qu'il est manifestement, et béni par lui, mais aussi un homme de bon sens. Je me rappellerai toujours ce qu'il nous a dit un jour à Samy et à moi, il nous dit, les gars, quand on a 10 francs, on bosse avec 10 francs. Quand on a 100 francs, on bosse avec 100 francs. Et quand on a 10 000 francs, on bosse avec 10 000 francs. Ça a l'air bête, hein. Mais vous savez quoi? Ça évite de faire des gaffes financières. Hein. C'est résumé en alsacien ce que Jésus a dit. Si tu veux faire un projet, bah, estime le coût. Si tu te coûte 10 000 francs mais que tu n'en as que 5 000, ben bah, voilà, bah, arrête-toi. Réfléchis. Proverbe dit, réfléchis avant d'agir. Et des fois, on agit d'abord, on réfléchit après, et on est coincé. Et le nombre de gens qui sont coincés, parce qu'ils n'ont pas réfléchi. Parce qu'évidemment, on va aller faire un prêt. Mais comme on a déjà 3 autres prêts, on va faire un prêt de plus, et on va racheter des prêts, et puis à la fin, on est plein de prêts, et on prête plus rien du tout à personne, et à la fin, on est coincé. Corde autour du cou. Vous me suivez toujours, là? Bien-aimé, tous les 5 ans, dans la majeure partie de la connaissance qu'a l'être humain, tous les 5 ans, cette connaissance double. Ça veut dire que si aujourd'hui vous sortez d'un CAP sur un domaine précis, allez, tourneur sur machine numérique, dans 5 ans, ce que vous savez a doublé. Autrement dit, si pendant 5 ans vous ne faites rien, imaginons pire que ça, pendant 10 ans vous n'apprenez rien de plus, vous ne rajoutez rien de plus à ce que vous savez déjà, bien dans 10 ans vous ferez partie d'un monde qui n'existe plus. Allô? Ça veut dire que quelque part nous devons rester alerte et continuer à progresser dans la connaissance. Je n'ai pas dit qu'à tout le monde doit faire des bacs plus 8, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Mais dans ce que nous avons à faire, dans ce que nous sommes, eh bien, continuer tranquillement à avancer, à progresser et à apprendre. Regardez-moi un petit peu les bénéfices de la sagesse, les bénéfices incomparables de la sagesse. Ouvrons ensemble Proverbe 2, versets 11 à 13. Proverbe 2, versets 11 à 13. On pourrait déjà voir un peu comment le père parle à son fils, verset 1. Est-ce qu'il lui dit en substance, mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence. Remarquez qu'on peut être chrétien et être intelligent. Être intelligent de vie aussi, hein. J'ai pas dit d'avoir un QI de 120, mais avoir une espèce d'intelligence de vie. Parfois, j'ai l'impression que quand on est chrétien, on n'a plus de tête. Il n'y a plus le cœur qui compte, l'esprit. Oui, l'Esprit Saint, très bien. L'esprit, le cœur, oui, très bien. Mais aussi une tête qui réfléchit, qui se met en route et qui donne du sens à l'action parce qu'il est sous l'impulsion et dans la direction de l'Esprit Saint. Il est marqué là après. Regardez voir. Si tu appliques, appelle la sagesse, etc. Si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor. Alors ça, on connaît en France, hein. Cavaler après l'argent. Alors, tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Conséquence, verset 11. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera. Autrement dit, tu es protégé. Verset 12. Protégé de, tu seras délivré de la voix du mal, de l'homme qui te tient des discours pervers. Vous savez le genre de personnage qui vient nous vendre des bouquins que vous ne lirez jamais? Ou des broutilles dont vous n'aurez jamais besoin. Mais ils vous baratinent du matin. Et voilà. Ou ce genre de copine qui vous bourre la tête. Et qui vous bourre la tête du matin au soir. Oui, mais ton mari, maintenant, ça fait déjà 15 ans que tu es marié avec lui. Je pense pas qu'il est un peu trop vieux maintenant, bedonnant et tout. Et puis ta femme, elle est un peu défraîchie. Hein, il faudrait un peu te rafraîchir, mon gars. C'est un discours de copain au travail. Entre deux cafés. Entre deux coca. On parle sur les femmes, n'est-ce pas? Et puis finalement, on accepte l'idée, on la poursuit, on la laisse mûrir. Et finalement, eh ben oui, pourquoi pas une fois, n'est-ce pas? Juste une fois, pour essayer. Marcherait-on sur des braises sans que ses pieds ne brûlent? Non. Verset 13. Mais vraiment verset 16, pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Autrement dit, la sagesse va te délivrer des ornières, va t'éviter des ornières dans lesquelles tu peux tomber et te faire excessivement mal. Deuxièmement, eh bien son investissement est extrêmement efficace et bénéfique. Regardez voir, Proverbe 3, versets 13 et 14. Vous prenez la page, colonne droite, là, chez moi. Il est marqué là, « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. » Ah bon? « Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. » Mais c'est quoi alors? Dans sa droite, « Hello ?» est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Et puis enfin, ses voies sont des voies agréables. Et tous ses sentiers sont paisibles. C'est pas beau ça? Pourriez dire amen, non? Voilà le fruit de la sagesse. Dans la mesure où je me plonge ma pensée, dans ces versets, dans la mesure où j'apprends, où je cherche à développer ma pensée, eh bien, je vis une vie qui est décrite ainsi. Très poétiquement, certes, mais une vie qui est belle. Alors, faut-il commencer par le béaba? Il y a un commencement à la sagesse. Et le commencement de la sagesse est décrit dans Proverbe 1, verset 7. Lisons ensemble. Le béaba de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. L'autre version dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Ceux qui se moquent de la sagesse sont stupides. Le béaba de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Le commencement, la leçon numéro une de la sagesse, c'est de commencer à craindre Dieu. Je n'ai pas dit avoir une trouble de Dieu, mais avoir une crainte de Dieu. La crainte de Dieu me retient de faire du mal. Quand je n'ai pas la crainte de Dieu, honnêtement, au nom de quoi je vous respecterai? Au nom de quoi je respecterai votre voiture, votre maison, votre gazon? Au nom de quoi respecterai-je votre mariage? Si votre femme me plaît, je la prends. Je la drague. Le béaba de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Le reste vient après, n'est-ce pas? Le reste vient après. Et ce soir, je voudrais vraiment rappeler ceci, que dans nos propres cœurs, si nous voulons être des hommes et des femmes animés d'une sagesse d'en haut, parce qu'il y a aussi une sagesse d'en bas, écrite dans Jacques 3, verset 15, qui elle est terrestre, elle est diabolique, elle est humaine. Elle permet aussi de belles réalisations. Elle permet aussi de réussir la vie socialement, certes. Même relationnellement, peut-être. Mais elle oublie une donnée fondamentale. C'est que notre vie n'a pas seulement une durée temporelle ici-bas, elle a aussi une durée éternelle dans l'au-delà. Et ce qui va compter, c'est l'au-delà d'abord. Amen. C'est pourquoi crains l'Éternel. Et tu verras là le commencement de la sagesse. On se rappelle de l'histoire de Lazare et du mauvais riche. Ce mauvais riche n'est pas si mauvais que ça quand on le lit, je trouve. À part peut-être le fait qu'il n'ait pas beaucoup de compassion pour le pauvre Lazare. Alors pourquoi le mauvais riche est appelé le mauvais riche? Ben, je vais vous dire pourquoi. Le mauvais riche est appelé mauvais riche parce que finalement sa sagesse n'a été qu'une sagesse terrestre. Maintenant. Il est riche pour maintenant. Il est riche pour aujourd'hui. Mais quand il se réveille dans l'au-delà, il est absolument pauvre, dénué, perdu, rejeté pour l'éternité. Alors que Lazare, lui, était un pauvre homme, c'est vrai. Mais il avait la foi. Et cette foi l'a enrichi d'une sagesse qui va lui donner une récompense éternelle. Maintenant, on peut être aussi un chrétien qui vit bien hein, et qui est sauvé pour l'éternité, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit que dans mon chrétien, il fallait être pauvre et aller au ciel. Mais le riche n'avait qu'une sagesse humaine terrestre, alors que Lazare avait une sagesse bien plus large et plus grande, qui dépassait le cadre de vie du maintenant. Je voudrais conclure ce soir en disant que nous voulons tous réussir nos vies, n'est-ce pas? Nous voulons tous que finalement le jour où on se retourne dans notre vie en arrière, on puisse dire, Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Les uns seront riches, d'autres moins riches, c'est pas grave. Jésus n'a pas été riche, il n'a jamais possédé une maison, même pas un âne il a possédé. Il a mal fini d'ailleurs même. Il a fini comme un condamné à mort. Hein. Et on l'a exécuté de manière absolument vile, dénudé sur un morceau de bois, suspendu au ciel et terre. Une mort atroce. Il n'a pas été riche, il n'a pas été marié même, il n'a pas eu d'enfant. Pour ceux qui pensent que le mariage serait la panacée universelle et le but de la vie, ou le seul but possible de la vie, c'est pas vrai. Hein. On peut très bien vivre célibataire et vivre une vie remplie. Maintenant, ceux qui souffrent de solitude, je comprends fort bien et je prie pour vous que Dieu vous donne un conjoint. Hein. Cependant, Jésus a pu dire à la fin de ses jours, tout est accompli. Sa vie était une réussite parfaite. Pas sur le coup, mais quand on voit les effets. Quel homme sage. D'ailleurs, il est la sagesse incarnée. Il voyait au-delà du temps. On voyait un beau temple, lui dit, écoutez, le temple là, dans peu de temps, il n'y aura plus une pierre sur l'autre. Seigneur, Seigneur, on a vu des démons quitter les corps. Oui, mais... Oui, très bien, c'est fantastique, mais assurez-vous que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Ce soir, je te pose une question. Es-tu un homme sage, une femme sage? As-tu assuré l'éternité? Crains-tu Dieu? Est-ce que la crainte de Dieu est le fondement de ta sagesse? Ou est-ce que ta sagesse n'est qu'une sagesse humaine, philosophique, qui aussi a glané peut-être un tas d'expériences et du bon sens de tes pères, de tes aïeux, de la société, tout ce qu'on a appris, etc. Tant mieux pour toi. Mais j'aimerais te dire, elle ne suffira pas. Parce que la vraie sagesse, c'est celle qui entrevoit non seulement la vie d'aujourd'hui, mais aussi la vie éternelle. Deuxièmement, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu appliques ton cœur à la sagesse? Est-ce que tu appliques ton cœur à un développement dans tous les domaines de ta vie? Jésus a grandi en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. C'est quand la dernière fois que tu as lu un bon livre qui t'a fait grandir dans un domaine de compétences que Dieu t'a donné? Voyez-vous, dans la Bible, on trouve des gens qui ont eu des onctions sur toutes sortes de métiers. Il n'y a pas que les pasteurs et les prédicateurs qui connaissent l'onction pendant qu'ils prêchent ou exercent le ministère. Il y a aussi, par exemple, un Oholiab, un monsieur qui était doué, qui était archi-doué dans toutes sortes d'artisanat. Dans le tissage, dans la teinture, dans le fait de faire du bronze, des métaux, de marteler l'or. Il avait reçu une onction de Dieu pour faire cela. Et serait-il parmi nous, Oholiab, je suis certain qu'il serait en train de se former, de chercher des techniques nouvelles pour améliorer ses compétences, son savoir-faire. Mon domaine à moi, c'est les médias. Enfin, je ne suis pas un spécialiste, mais j'aime ça. Et forcément, tout ce qui me tombe sous le sens, je le glane, je le mange, j'essaie de comprendre. Et ça me fait du bien parce que je vois mieux, plus clair qu'il y a 6 ans en arrière. Le nombre d'heures qu'on passe devant un téléviseur qui des fois nous abrutit de programmes, franchement. Alors je n'ai pas dit qu'on n'a pas le droit de se détendre, n'est-ce pas? Alors détendez-vous, il faut aussi se détendre. Mais des fois, c'est bon aussi d'éteindre et de reprendre un bon vieux livre et de développer son mental, d'aller plus loin, de gagner en sagesse. Amen. Amen. Le béaba de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Mais après ça, la sagesse que tu développes, que tu acquiers dans le contact avec des hommes et des femmes sages, avec des aînés qui te communiquent de l'expérience, mon ami, ça te donne une sagesse de vie qui est extrêmement précieuse et bénéfique. Je voudrais terminer par une lecture avec vous dans Proverbe 1, et puis nous prierons. Proverbe chapitre 1, les versets 2 et suivants. Je vous lis dans la version de la parole de vie. Ces proverbes ont pour but d'apprendre aux gens à se conduire avec sagesse. Ils permettent de recevoir une bonne éducation. Et je voudrais encourager tous les parents qui des fois s'agacent avec leur petite tête blonde pour les éduquer, et qui enfin, vous veulent baisser les bras, je vous dis, ne baissez pas les bras. Continuez à bien les éduquer. Et nous qui avons reçu une bonne éducation, rendons grâce à nos parents pour la bonne éducation qu'ils nous ont donnée, n'est-ce pas? Mon père ne m'a pas donné beaucoup de fessées, mais il y en a eu, j'en ai une ou deux en souvenir, que j'ai mérité. Mais je me dis, heureusement qu'il l'a fait. Ça m'a foudroyé. Voilà. Ils enseignent à vivre de façon intelligente, à être juste, à respecter les lois, à être honnête. Ils rendent prudents ceux qui manquent d'expérience. Ils donnent aux jeunes des connaissances et les aident à réfléchir. Verset 5. Même les sages pourront les lire et ils apprendront quelque chose. Même les gens intelligents, ils trouveront de bons conseils. Ils pourront comprendre le sens caché de certains proverbes et ce qui est difficile dans l'enseignement des sages. Le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. Ceux qui se moquent des enseignements et des conseils des sages sont des personnes stupides. Alors, je vais vous donner des devoirs. Comme à l'époque, quand j'étais en salle de classe, je donnais des devoirs. Voilà ce que la Bible déclare dans l'ouverture du livre des Proverbes. Si vous lisez ces proverbes, si vous les méditez, ils vous rendront sages, intelligents, prudents, perspicaces, avisés. Ils feront en sorte que votre vie chrétienne va associer une vie de l'esprit vibrante, avec en même temps associée avec une vie terrestre, une vie d'ici-bas qui gère les problèmes au quotidien, mais avec une sagesse renouvelée. Et je veux croire alors que nos vies rentrent dans le Canaan céleste. Amen. Dans le pays où coule le lait et le miel, un bout de ciel sur terre. Alors je vous propose, dans les prochains temps, si vous voulez bien, que tous les jours, vous lisiez un chapitre des Proverbes. Allez, faites ça pendant 3 mois. Pour moi. Et surtout pour vous d'ailleurs. Parce qu'il y a 31 chapitres. Ça fait un chapitre par mois pour les mois de 31 jours. Et pendant les prochaines semaines, quand je vais prêcher, je vais piquer quelques proverbes comme ça. Et on va prêcher sur, par exemple, la gestion de l'argent. On va prêcher sur la réactivité, être réactif. On va parler de construire une famille solide. Et je veux croire que Dieu vous donnera les bons conseils. Et lorsque vous les appliquerez avec l'aide du Saint-Esprit, vos vies seront meilleures demain qu'aujourd'hui. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Elle nous recommande de chercher la sagesse. Elle nous recommande de la chercher comme celui qui cherche de l'argent et de l'or. Comme ce chercheur d'or qui, avec fébrilité, avec angoisse, avec ferveur, sont prêts à remuer des tonnes de terre pour découvrir un filon. Que dis-je ? Une pépite. Permet que dans les prochains temps, nos lectures des proverbes nous fassent découvrir des pépites d'or, pleines de sagesse, qui vont nous aider à mieux vivre, qui vont nous donner de vivre une vie chrétienne pleine d'abondance, pleinement dans ce que tu veux pour chacune de nos vies. Seigneur, bénis chacun et chacune, je te le demande. Rends-nous sages. Apprends-nous à craindre ton nom au quotidien, en toutes choses, en parole, en action, en pensée. Seigneur, que ta grâce et ta paix nous soient multipliées. Amen.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.